C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère.
Recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Pour tous ceux qui sont en contact avec nous, comme vous l'avez suivi, vous ne vous êtes pas du tout trompés. Vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, votre émission des méditations profondes où la vérité biblique est proclamée, ou uniquement la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Et une fois de plus, mesdames et messieurs, pour vous servir, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Tout se déroule sous l'œil très très vigilant et très très attentif, comme toujours, de Son Excellence, Sa Majesté, l'admirable conseiller, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, toujours imité, jamais égalé, le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Installez-vous confortablement. Et surtout, ayez un stylo et sur quoi noter. Parce que comme promis, nous allons continuer. Vous le savez déjà, nous avons abordé une série d'émissions consacrées aux questions et aux réponses à la lumière des Saintes Écritures, la Bible. Parce que c'est toujours important de se pencher sur des questions, des multitudes. Et la dernière fois, nous avons commencé à nous intéresser à cette question complexe, savoir la position de la femme dans l'Église. Où il faut avouer que c'est une question complexe et en même temps controversé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons fouetter les Saintes Écritures pour trouver exactement ce qui est écrit, quelle est la position de la femme à l'Église ou dans l'Église. Comme je le disais la dernière fois, lorsque le Seigneur le permettra, nous allons ouvrir un grand chapitre sur la famille. Et lorsque nous allons ouvrir ce grand chapitre, nous allons également nous intéresser au rôle de la femme dans la société. Mais en attendant, la question qui nous préoccupe, c'est plutôt la position de la femme dans l'Église. Je tiens toujours à signaler que toutes les émissions précédentes, si vous avez raté quelque chose, vous pouvez toujours vous rattraper en entrant tout simplement en contact avec nous. Et vous allez recevoir tout cela gracieusement ou gratuitement. Oui, parce que toutes les émissions passées existent sur des supports CD. Et même sur Internet, vous pouvez télécharger gratuitement pour ceux-là qui ne peuvent pas entrer en contact avec nous en vous connectant sur le site internet pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, tout cela est attaché. Pasteur n'est pas séparé de Rodrigue. Pasteurrodrigue.com. Vous pouvez télécharger gratuitement les différents messages en brochure, en audio, vidéo et ainsi de suite. Avant de lire particulièrement dans le Nouveau Testament, puisque lorsqu'on parle de l'Église, on se concentre beaucoup plus dans le Nouveau Testament, parce que l'Église est née dans la Nouvelle Alliance. Et lorsqu'on parle de la position de la femme dans l'Église, c'est beaucoup plus dans le Nouveau Testament qu'on doit se concentrer, puisque l'Église n'a pas existé dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Mais pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute la dernière fois, nous allons essayer de faire un petit résumé, oui, de ce qui a été dit, afin que ceux qui avaient raté cette émission ou bien qui n'avaient pas bien saisi certaines choses puissent pouvoir se rattraper. La dernière fois, nous avons lu dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 23, où il est écrit que Dieu a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, plus tard, il va de la côte de l'homme créer la femme. Et à partir de là, nous avons vu que Dieu a décidé de créer d'abord l'homme. Et c'est plus tard qu'il va créer la femme. Et Dieu étant souverain, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc il a choisi de créer d'abord l'homme et ensuite la femme. Et c'est un fait qui demeure éternellement. L'homme a été créé le premier et la femme ensuite. Et 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 8 au verset 9 va nous dire exactement ce qui a été déjà dit dans Genèse. Je vais chercher cette portion des Saintes Écritures et je vais lire pour nous tous. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 8 et 9, où il est écrit ceci. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà, nous retrouvons cela également dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et Dieu, en créant Ève, va dire qu'il voulait que Adam ait une aide semblable à lui. Donc Adam, qui a été créé le premier, Dieu, au travers de sa côte, va créer la femme, et Dieu va clairement dire que la femme était une aide semblable à lui. Donc, dans le plan de Dieu, la femme a été créée pour aider l'homme, et non pour rivaliser avec l'homme. C'est très très important de souligner ces choses, parce que lorsqu'on ne comprend pas la pensée de Dieu, on va inverser beaucoup de choses. J'insiste beaucoup. La femme n'a jamais été créée pour être la rivale de l'homme. Parce que nous vivons dans une société où les choses vont à l'envers. Parfois, les femmes veulent rivaliser avec les hommes. Ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas pour cela que la femme a été créée, mais comme aide. Et quand on parle de aide, on parle aussi de complémentarité. Donc, se compléter d'une manière ou de l'autre. Et c'est important de souligner cela. Nous avons également vu la dernière fois que dans l'Ancienne Alliance, ou si vous voulez l'Ancien Testament, particulièrement dans Nombre, chapitre 30, à partir du verset 3 au verset 13 ou au verset 14, Il est clairement écrit que la jeune fille était sous l'autorité de son père. Ce qui n'était pas le cas pour l'homme. La femme, lorsqu'elle va se marier, va se retrouver sous l'autorité de son mari. Nous avons lu tout cela la dernière fois. Ceux qui n'ont pas pu écouter cela peuvent relever Nombre chapitre 30 à partir du verset 3 au verset 14. Nous avons également lu que même depuis sa naissance, le jeune garçon était différent de la jeune fille. Par exemple, lorsque une femme mettait au monde une fille, elle devait se purifier. Et les jours de purification devaient être doubles. Lorsqu'une femme mettait au monde une fille, particulièrement 2 semaines, alors que pour le garçon, c'était 1 semaine. Nous voyons déjà une certaine différence qu'il y avait déjà entre un garçon et une fille, alors que ils n'avaient ni fait le bien, ni fait le mal. Mais Dieu les avait prédestinés d'une façon différente. Nous pouvons lire cela dans le livre des Lévitiques, chapitre 12, à partir du verset 2 au verset 5. Je vais tout doucement, afin que vous puissiez prendre tout votre temps pour écouter et surtout pour relever. Parce que je sais que ce sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est un sujet complexe et un sujet de controverse, la position de la femme dans l'Église. Et nous avons également vu que lorsqu'on faisait le recensement, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Il n'y avait que les hommes qui étaient comptés lors des recensements. Et nous allons également remarquer que même dans les évangiles, lorsque Jésus va faire particulièrement le miracle de la multiplication de pain et de poissons, chaque fois, on va donner le nombre, mais en disant, sans compter les femmes et les enfants. Oui, si vous lisez dans les évangiles, toutes les fois où Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir les foules, la première fois, on va parler des 5000 hommes, et en précisant, sans compter les femmes et les enfants. Et plus tard, Jésus va également faire cela pour nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous voyons que ce n'est pas un fait nouveau. Les enfants n'allaient pas en guerre. Et les femmes non plus. Oui, dans l'ancienne alliance, les femmes ne partaient pas en guerre et les enfants non plus. Nous voyons déjà une différence qu'il y avait entre l'homme et la femme. Nous pouvons lire cela dans Nombre, chapitre 1er, à partir du premier verset au verset 4. Ou Nombre, chapitre 3, le verset 40, pour ceux-là qui notent. Nous allons également remarquer que dans Nombre, chapitre 12, à partir du premier verset au verset 15, oui, Nombre, chapitre 12, à partir du premier verset au verset 15, Myriam, ou Marie, la sœur de Moïse, va être frappée par Dieu de la lèpre. Oui, Myriam, en hébreu, ou Marie, qui était la sœur de Moïse, va être frappée de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle va prétendre avoir la même autorité que Moïse. Et Dieu ne doit pas supporter cela et doit la frapper de la lèpre. Vous pouvez lire cette histoire dans Nombre chapitre 12, à partir du premier verset au verset 15. Nous pouvons également dire que dans l'ancienne alliance, les femmes ne sont pas chefs de tribu et ne sont pas non plus comptées parmi les souverains sacrificateurs. Et nous allons également remarquer que lorsque la nation d'Israël va commencer à s'organiser, dans Nombre chapitre 11, les versets 16 et 17, il va falloir choisir ceux qui vont diriger, les anciens, qui ont autorité sur le peuple. Et nous pouvons lire cette portion de Sainte Écriture une fois de plus. Nous sommes dans Nombre, chapitre 11, les versets 16 et 17. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. » Nous voyons aussi Dieu qui demande à Moïse de choisir 70 hommes, des anciens, ceux-là qui vont diriger la nation d'Israël et juger également les problèmes avec Moïse. Et ce sont des hommes. Il n'y avait aucune femme. Nous avons également vu la dernière fois qu'au cours de l'histoire d'Israël, il doit y avoir un incident qui doit se produire. On doit voir une femme qui était prophétesse se retrouver également juge. C'était un incident qui s'est produit une fois au cours de l'histoire de la vie d'Israël. Et nous pouvons lire cette histoire dans Juges chapitre 4, à partir du premier verset au verset 10. Qui parle de Déborah, qui était prophétesse et qui se retrouvait également comme juge. Lorsque nous avons lu cette portion des Saintes Écritures la dernière fois, beaucoup de choses ont été remarquées. Premièrement, c'était une période d'apostasie. D'ailleurs, le premier verset du chapitre 4 résume clairement cela. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. Voilà. Nous voyons que c'était une période d'apostasie. Le peuple d'Israël avaient abandonné le vrai Dieu et ils avaient commencé à servir des faux dieux, des idoles. Et c'est ainsi que Dieu va les vendre, Dieu va les livrer à leurs ennemis. Et ils vont commencer à être oppressés. Et nous voyons dans quel contexte cette femme qui était juge, alors qu'en réalité, jusque-là, on n'avait jamais vu rien de ce genre en Israël. C'est ce que le verset 4 nous dit. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Voilà. Je vais un peu m'arrêter et dire ceci. La Bible nous dit que lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Oui, lorsque les fondements établis par Dieu sont renversés, les choses vont la plupart des temps à l'envers. Parfois, lorsque les hommes brillent par leur absence, là où ils devaient être devant, prendre la tête, parfois les femmes se retrouvent dans une position où elles ne devaient pas se retrouver. C'est très très important. Lorsque les chefs des familles démissionnent de leurs responsabilités et poussent les femmes à prendre leur place, c'est également pour interpeller les hommes qui établissent des femmes comme des pasteurs et anciens dans les églises. Vous êtes en train de contribuer à leur péché. Le texte que nous sommes en train de lire, les hommes qui devaient être juges parce qu'ils avaient abandonné Dieu, Dieu les ayant livrés à l'ennemi, voilà que c'est plutôt une femme qui se retrouve en train de juger le peuple. Lorsque nous lisons cette histoire, nous allons quand même nous rendre compte que cette femme était consciente que cette place n'était pas la sienne et s'est retrouvée là par la force des choses. Lorsqu'il va falloir se lever pour aller combattre l'ennemi qui les a assiégés et les dominés, elle va faire appel à un certain Barak qui était un homme. Donc elle a compris que ce n'est pas parce que elle était prophétesse et même pas la force des choses juge qu'elle avait le droit de prendre la tête de l'armée. Verset 6, nous sommes dans Juges chapitre 4. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinom, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et les enfants des Zabulon. Verset 7, j'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée des Jabins, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu manges. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Amen. Nous voyons ici, elle va faire appel à un homme en lui disant, en tant que prophétesse, Dieu dit qu'il va livrer le chef de l'armée, Sisera, entre tes mains, va. Dieu est avec toi et avec tous ceux qui vont être avec toi pour combattre. Malheureusement, parce que c'était l'apostasie, les hommes avaient abandonné Dieu, les hommes n'avaient plus la foi, c'était vraiment l'apostasie totale. Barak va lui dire, si tu ne viens pas avec moi au front de bataille, je n'irai pas. Nous voyons les hommes en train de trembler, alors qu'en réalité, avec Dieu de leur côté, ils devaient aller tête haute, en étant sûr d'être victorieux. Mais ils sont plutôt en train de trembler. Voilà le chef de l'armée, Barak, en train de trembler en disant que si la femme ne vient pas avec lui, il n'ira pas. Et qu'est-ce que Déborah va répondre? Tu n'auras pas de gloire sur ce chemin, car Dieu va livrer Sisera, le chef de l'armée, entre les mains d'une femme. Donc nous voyons que Déborah était consciente d'une chose. Dans cette situation, la femme ne devait pas prendre le devant. La gloire ne devait pas revenir à une femme. Beaucoup, lorsqu'ils parlent de cette histoire, de Déborah, la prophétesse qui est devenue juge, ils n'entrent pas en profondeur pour comprendre même la pensée de Déborah, la prophétesse. Donc, les gens ne tordent plus les sens des Écritures en suivant la parole de Dieu. Donc, quand bien même une femme va se retrouver dans une situation où elle est tentée de prendre le devant sur les hommes, elle doit faire attention. Je vais prendre quelques exemples. Il peut arriver que dans une situation où en réalité les hommes devaient être devant, ils sont plutôt en train de briller par leur absence, ils sont absents. Les femmes peuvent se retrouver en train de faire ce que les hommes devaient faire, mais ce n'est pas pour autant que les femmes doivent se considérer comme les hommes ou bien doivent prendre la place des hommes. S'il arrive également que, par exemple, une femme se retrouve dans un coin où elle commence à témoigner de Jésus, à prêcher l'évangile, s'il arrive que les gens acceptent le Seigneur Jésus, elle peut encadrer ses âmes en attendant que Dieu suscite une personne qui doit prendre le contrôle de la suite de l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'elle s'est retrouvée par la force des choses dans cette situation qu'elle doit commencer à se considérer comme un apôtre ou un pasteur, je ne sais pas, ou une pasteuse ou une pasteur, je ne sais pas trop. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Et une fois de plus, je lance un défi aux hommes. Levez-vous et prenez la place qui vous revient. Et ne contribuez pas au péché des femmes en les mettant là où elles ne doivent pas être. Je tiens à préciser que la question c'est quelle est la position de la femme. Je dis bien dans l'église, pas dans la société. Nous allons y revenir, le rôle de la femme dans la société. Cette fois-ci, c'est plutôt dans l'église, dans un cercle restreint. Mesdames et messieurs, restez tout simplement à l'écoute. Si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, nous allons faire un saut dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons lire dans Galates chapitre 3, le verset 28. Galates chapitre 3, le verset 28. Nous sommes en train de nous intéresser à la position de la femme dans l'Église. Il est écrit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Dans cette portion des Saintes Écritures, la Bible nous dit que en Christ, tous ceux-là qui ont cru sont un. Oui, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est un verset que beaucoup interprètent mal. C'est vrai que lorsque Dieu voit tous les chrétiens du monde entier, peu importe les sexes, même les couleurs, les tribus, les nationalités, Dieu les voit unis en Jésus-Christ, un en Jésus, pour la simple raison qu'ils ont reçu le même esprit, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne fait plus la différence entre l'homme et la femme. Le fait d'être un en Christ, par exemple, ne change pas le sexe d'une femme ou d'un homme. Pas du tout. L'homme reste toujours l'homme et la femme reste toujours la femme. C'est seulement qu'ils sont un en Jésus. Pour être sauvés, ils doivent tout simplement se repentir, accepter Jésus. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est la même chose. Pour servir, Dieu les demande les mêmes exigences, la consécration, la crainte, et ainsi de suite. Mais l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, qui dit clairement ceci. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Donc nous voyons que même dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc le fait d'être en Christ n'a pas banni ces faits. Que l'homme est l'homme, la femme reste la femme. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit que l'homme a est différent du Saint-Esprit que la femme a. Mais c'est ce que Dieu dit. Et nous allons également nous rendre compte que dans le Nouveau Testament, Dieu a particulièrement interdit deux choses à la femme. Le ministère d'enseignement est le fait de conduire les hommes ou de prendre l'autorité sur les hommes. Nous sommes en train de nous intéresser à quelle est la position de la femme dans l'Église. Dans l'Église, Dieu n'a pas permis que les femmes aient un ministère d'enseignement ou de diriger les hommes. Et ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 12 au verset 14. Il est clairement écrit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je tiens à signaler ici que demeurer dans le silence, c'est-à-dire ne pas vouloir enseigner les hommes. Lorsqu'il s'agit de l'enseignement, elle doit plutôt demeurer dans le silence et non chercher à enseigner. Maintenant, le verset 13 dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». Contrairement à ceux qui disent que ce verset ne tient pas compte des contextes ou bien ça s'adressait aux Corinthiens, patati patata, le verset 13 nous dit « Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite ». Donc la Bible nous ramène encore au commencement. Donc ce n'est pas une affaire de temps, de circonstances ou bien d'époque ou de coutumes ou de traditions. Sinon la Bible ne nous renverrait pas au commencement. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Verset 14, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable des transgressions. Voilà, la Bible va jusqu'à dire que, au commencement, lorsque la femme a essayé de prendre le devant, elle a été séduite par le diable et elle a introduit le péché dans le monde. Justement, lorsqu'on étudie la Genèse, c'est l'homme que Dieu avait d'abord créé et qui était chef. Malheureusement, lorsque le diable est venu et a commencé à s'entretenir avec la femme, elle a pris des décisions sans tenir compte de ce que son mari pouvait penser. C'est devant les faits accomplis que son mari s'est retrouvé. Et la Bible revient sur ces faits ici pour dire qu'en réalité, la femme dans l'Ancien Testament, dans Genèse, a pris la place de l'homme, lui a pris la place de l'homme en prenant le devant. Et voilà les conséquences. Le péché est entré dans le monde. Donc, pour ceux-là qui disent que ce sont les paroles de l'apôtre Paul, ou bien c'était aux Corinthiens, c'était à une époque, non. Ce qu'il dit ici est lié même à quelque chose qui a été depuis le commencement, la Genèse. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours danger. Lorsque les gens veulent contourner la parole de Dieu, au lieu que nous nous soumettons aux Saintes Écritures, si nous commençons à raisonner, nous allons finir toujours par tomber dans le même piège. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et un petit bémol, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, la Bible va nous dire également qu'il faut que la femme se taise dans l'église. Mais la Bible continue en disant, si elle veut s'instruire, qu'elle interroge les maris à la maison. Donc nous voyons que le fait de se taire cette fois-ci à l'église concerne maintenant le fait de vouloir s'instruire alors que la prédication ou l'enseignement est en train de passer. Elle voudrait interrompre ou perturber parce qu'elle veut s'instruire en même temps. Dans ce cas, la Bible dit qu'elle doit rester calme et après interroger son mari à la maison. Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'elle doit avoir la bouche bée à l'église, c'est-à-dire sans prier, ni chanter, ni dire quoi que ce soit. Là, ce n'est pas tenir compte de toute la parole de Dieu. Et également, je disais la dernière fois que c'était un défi que Dieu lançait à tous les maris. Les maris doivent faire les efforts de connaître la parole de Dieu afin de pouvoir instruire les femmes comme cela se doit, et les enfants, bien entendu. Et également, les prédicateurs doivent prendre les responsabilités parce que toutes les femmes qui sont à l'église ne sont pas mariées. C'est ainsi que ils doivent toujours, chaque fois, donner l'opportunité aux gens de poser les questions s'il y en a. Et je disais la dernière fois qu'une bonne église, c'est aussi cette église où on donne l'opportunité aux gens de poser les questions lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou lorsqu'ils n'ont pas compris certaines choses. Malheureusement, parfois, beaucoup rentrent dans beaucoup de milieux religieux avec beaucoup d'interrogations, avec des choses qui ne sont pas correctes dans leur esprit. Mais comme on ne leur donne pas l'opportunité de poser les questions, ils font semblant de comprendre et après, ils s'en passent dessus et accumulent beaucoup des incompréhensions, accumulent beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans les têtes, ce qui n'est pas normal. Nous pouvons également remarquer que dans les évangiles, Jésus qui est venu et qui a fait la différence en toutes choses, a également côtoyé les femmes. Et il a également honoré la femme comme il le pouvait. Par exemple, dans l'évangile de Jean, on va l'amener une femme en disant qu'on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi disait qu'on lapide telle femme. Et lorsqu'on a interrogé Jésus à ce sujet, il a dit que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme. Tous, s'étant accusés par leur conscience, ont jeté la pierre et se sont enfuis. Nous voyons que Jésus, particulièrement devant cette femme, ne l'a pas condamné. Oui, Jésus n'a pas condamné cette femme. Nous allons également voir que les gens qui voulaient lapider cette femme accusaient cette femme d'avoir commis l'adultère. Et la loi disait qu'on lapide vraiment de telles femmes, mais on ne commet pas l'adultère tout seul. Où est l'homme avec qui elle avait commis l'adultère? Mais c'était plutôt uniquement la femme qu'on avait au devant de la scène. Mais nous avons vu que Jésus avait une attitude différente. Nous pouvons lire également dans l'évangile de Luc, chapitre 8, ceci. L'évangile de Luc, chapitre 8, c'est juste quelques versets comme ça en passant, pour montrer que Jésus a côtoyé les femmes lorsqu'il était sur la terre. Il est écrit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Dans cette portion de la Sainte Écriture, nous voyons plutôt que ces femmes qui étaient autour de Jésus l'assistaient plutôt de leur bien. Jésus n'a jamais nommé une femme apôtre alors qu'il était sur la terre. Ce n'est pas parce que autour de lui, il n'y avait pas de femmes. Il y avait même des femmes de distinction. Mais Jésus n'a jamais nommé une femme apôtre. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes apôtres ou des hommes même faire ce que Jésus, le Maître suprême, n'a pas pu faire. C'est tout simplement regrettable. Nous allons également remarquer que lorsque Jésus va être crucifié, il y aura également les femmes assistant à cette scène. Et Jésus va d'ailleurs s'adresser à elles. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus, subitement, les a nommés apôtres. Nous allons également remarquer que lorsque Jésus va ressusciter, elle va apparaître à une certaine Marie de Magdala. Et Jésus va lui dire, « Va dire à mes frères que je suis vraiment ressuscité. » Et c'est ce qu'elle va d'ailleurs faire. Mais se baser sur cette portion de Sainte Écriture pour dire que subitement elle est devenue pasteur apôtre, c'est monstrueux. Et manque même le minimum de bon sens. Le fait d'aller dire que j'ai vu Jésus ressuscité et lui-même m'a dit de venir vous dire cela. Est-ce que subitement Jésus l'a établi apôtre ou pasteur ou je ne sais pas trop quoi? Pas du tout. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Une femme peut aller prêcher l'évangile aux gens en les disant « Jésus est mort pour vous. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés. » Mais ce n'est pas pour autant que subitement on est pasteur ou apôtre. Nous allons également lire que dans l'église primitive, parce que Actes des apôtres nous raconte l'histoire de la vie de l'église primitive. Et si nous lisons particulièrement dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Soulignons maintenant. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Nous voyons ici que, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les apôtres priaient également avec les femmes et même Marie, mère de Jésus. Mais lorsque nous allons lire la suite jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, nous ne verrons plus des femmes en train d'être mises au devant de la scène. Dans l'église primitive, on ne voit aucune femme, ni ancien, ni pasteur, ni apôtre. Et pourtant, elles étaient là, elles existaient réellement. Et nous allons également remarquer que même Marie, quand Jésus-Christ était sur la terre, Jésus n'avait jamais voulu qu'elle se mêle de ses affaires. Par exemple, dans l'évangile de Jean chapitre 2, aux noces de Cana, lorsqu'elle va dire à Jésus, il n'y a pas le vin, Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ce sont des exemples juste pour montrer que s'il fallait nommer une femme apôtre, Jésus était bien placé pour le faire. Et après la mort de Judas, il a fallu remplacer ce traître. Dans Actes des Apôtres, on va présenter deux personnes. Et parmi ces personnes, il n'y avait aucune femme. Et pourtant, il y avait même Marie, mère de Jésus, qui était là. Donc, nous voyons que Dieu, dans son plan parfait, n'a jamais voulu que les femmes à l'église soient anciennes pasteurs ou dirigent les hommes ou enseignent même. Et est-ce alors à dire que les femmes n'ont rien à faire à l'église? Pas du tout, pas du tout. Par exemple, les femmes ayant reçu le Saint-Esprit du Dieu vivant, ayant également en elles beaucoup des dons déposés par le Seigneur, peuvent rendre ministère chaque jour que Dieu a créé dans un cadre privé. Par exemple, si nous lisons l'histoire d'Aquilas et sa femme Priscille, ils vont enseigner un certain Apollos en l'aidant à connaître davantage les Saintes Écritures. Donc, une femme peut aider son mari à être un bon serviteur de Dieu en l'assistant par ses prières, peut-être même par ses précieux conseils. Oui, nos sœurs doivent savoir cela. Je dis bien ceci. Nous avons vu que le Nouveau Testament ne prévoit pas de ministère pastoral féminin. Cependant, la femme peut, grâce au don du Seigneur, à ses qualifications spirituelles et à son dévouement, se consacrer légitimement et efficacement à une grande variété de ministères. En plus de ceux mentionnés. Par exemple, dans son foyer, si elle est mariée auprès de son mari, dont elle peut partager les responsabilités par ses prières, et aussi auprès de ses enfants, qu'elle doit instruire et éduquer dans la connaissance et la crainte de Dieu, et aussi auprès des personnes qu'elle accueille chaque jour chez elle dans le cadre de l'hospitalité. On lit dans Romains chapitre 12, le verset 13. Dans son assemblée, elle peut veiller au bien-être spirituel de frères et sœurs en exerçant. Si elle a effectivement reçu le don des prophéties. Par exemple, la dernière fois, nous avons vu que la Bible demande à la femme de prier et de prophétiser. Nous avons lu cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Et dans la prophétie, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 nous parle de l'édification, de l'exhortation et de la consolation. Nous avons vu que l'exhortation est différente de l'enseignement. Donc, elle peut apporter son aide dans ce sens-là, aux besoins, parce que il y a vraiment du travail auprès des jeunes convertis, auprès même des païens, et ainsi de suite. Elle peut également, si Dieu lui a donné ce fardeau, aller même prêcher l'évangile, comme un missionnaire, pourquoi pas. Que ce soit comme célibataire ou auprès de son mari. Mais, il doit tout simplement veiller afin de ne pas prendre la place de l'homme. Nous avons également vu la dernière fois que dans le cadre de l'organisation de l'Église, une Église biblique n'est pas dirigée par un pasteur, mais plutôt par les anciens et les diacres. Les pasteurs, quant à eux, ayant un ministère itinérant. Et nous avons vu que parmi les anciens, il n'y avait aucune femme, il ne devait avoir que les hommes. Parce que les anciens doivent d'abord diriger bien leur propre maison. Et les hommes sont les chefs dans leur maison, selon le plan de Dieu. Et nous avons également vu que les hommes doivent également enseigner en tant qu'anciens. Et c'est exactement ce que Dieu défend à la femme de faire dans l'Église. Nous avons lu cela dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Et aussi dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, qui parle clairement que les anciens qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur, et surtout ceux qui prêchent et enseignent. Donc la parole de Dieu est suffisamment claire à ce niveau. Le temps étant contre nous, j'ai tenu à aller vraiment tout doucement et même revenir sur ce qui a été dit pour permettre à ce que les uns et les autres puissent vraiment comprendre certaines choses. Parfois, c'est nécessaire de se répéter et de répéter les mêmes choses. La répétition étant la meilleure des... Vous pouvez conclure. D'un moment à l'autre, mesdames et messieurs, nous allons nous séparer. Et avant de nous séparer, je vais résumer en disant ceci. La position de la femme dans l'Église, elle peut et elle doit tout faire, sauf prendre l'autorité sur les hommes ou diriger les hommes ou avoir un ministère d'enseignement. Mais dans un cadre privé, elle peut enseigner les jeunes convertis ou tous ceux qui sont autour d'elle qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle se retrouve à l'église, Dieu ne lui permet pas d'enseigner ni de diriger les hommes. Les hommes qui établissent les femmes à ce rôle sont en train de faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et les femmes qui sont dans cette situation doivent vraiment faire attention. Vous allez même renoncer à certaines responsabilités qui vous amènent à pécher contre Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible nous parle des diacres et des diaconesses. Donc une femme peut être diaconesse, mais pas ancienne. Et lorsqu'on lit les Saintes Écritures, les diaconesses avaient particulièrement pour rôle de se consacrer aux questions matérielles de l'Église ou bien à certaines tâches que l'Église peut les confier, mais qui ne tournent pas autour de la prédication ou l'enseignement ou de la direction de l'Église. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Nous voyons ici, depuis le commencement, Dieu avait voulu que la femme soit une aide semblable à l'homme. Mais malheureusement, nous allons nous rendre compte qu'elle n'a pas du tout accompli sa mission, à savoir être cette aide à côté de l'homme. Bien au contraire, elle a été plutôt une occasion de chute, comme nous pouvons tous le voir dans les Saintes Écritures. Elle s'est laissée séduite par le diable et le péché est entré dans le monde. Donc, mesdames, ne soyez pas comme Ève. Nous avons vu que la maison de Dieu, c'est aussi de l'ordre. Et chacun a sa place. Et Dieu n'a pas permis que les femmes dans l'église puissent enseigner et encore moins prendre de l'autorité sur les hommes ou diriger les hommes. Et si les hommes se mettent à nommer les femmes pasteurs, comme on en voit autour de nous, oui, il y a beaucoup qui, parce qu'ils sont pasteurs ou apôtres, ils font tout afin que les femmes soient également pasteurs ou apôtres ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas normal. Nous ne voyons pas une telle chose dans les Saintes Écritures. Nous voyons nulle part où l'apôtre Pierre a nommé sa femme pasteur. Nous voyons nulle part cela dans les Saintes Écritures. Ni aucun autre apôtre d'ailleurs. Donc, mesdames, prenez la place qui est vraiment cette place que Dieu vous a donnée. Faites tout. Mais, ne dirigez pas les hommes. N'ayez pas un ministère d'enseignement. Et surtout, ne prenez pas le devant, comme Ève. Et nous avons vu les conséquences lorsque Ève, au lieu d'être cette aide, a voulu plutôt prendre le devant et le péché est entré dans le monde. Nous pouvons également lire dans Proverbe 31 qui nous parle de la femme vertueuse. Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. C'est une longue lecture. Vous pouvez lire cette description de la femme vertueuse. Et toutes les sœurs en Christ sont interpellées à lire cette portion de Sainte Écriture afin de pouvoir être vraiment cette femme vertueuse, selon Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Verset 10. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. La Bible entre nous parle ici de la femme vertueuse. Et la Bible va également dire que cette femme vertueuse, c'est une femme travailleuse qui fait le commerce et ainsi de suite. Vous pouvez lire tout cela dans cette portion de Sainte Écriture des Proverbes 31 à partir du verset 10. Mais, malgré toutes les qualités de cette femme, malgré qu'elle est une femme entreprenante, qu'elle est une femme qui craint Dieu et qui doit être louée, la Bible nous dit au verset 23, écoutons ce que le verset 23 nous dit. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Donc, lorsqu'il faut siéger en tant qu'ancien, c'est plutôt son mari et non elle. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu que les femmes soient pasteurs, anciens, apôtres et que sais-je encore. Voilà, mesdames et messieurs, nous pouvons, à partir de ce que nous avons vu jusqu'ici, vraiment avoir une vue d'ensemble, à savoir quelle est la position de la femme dans l'Église. Et lorsqu'on lit attentivement Romains, j'ai fini par là, lorsqu'on lit attentivement Romains chapitre 16, notez très très bien, lisez attentivement Romains chapitre 16. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul va apprécier beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes, il y aura des diaconesses. Et certaines ne seront même pas diaconesses. Mais l'apôtre Paul va les apprécier d'une façon exceptionnelle en les mentionnant. Ce n'est pas parce qu'elles étaient pasteurs ou apôtres, mais parce qu'elles ont vraiment rendu service aux gens et même à l'apôtre Paul, à l'église, sans pour autant être pasteur ou apôtre. Donc c'est pour dire que ce n'est pas en étant apôtre ou pasteur qu'on montre qu'on sert Dieu. Non, mesdames et messieurs. Et pour finir, les femmes doivent également se rappeler toujours de Jacques, chapitre 3, le premier verset. Écoutez attentivement. Jacques, chapitre 3, le premier verset. Que je vais me charger de lire pour nous tous. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Amen. La Bible dit que il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car les gens qui enseignent un jour seront jugés plus sévèrement. Alors, faites gaffe, frères et sœurs, faites gaffe, mesdames, un jour, vous serez jugés plus sévèrement en enseignant. Même les hommes qui ont été appelés pour enseigner seront jugés plus sévèrement, à plus forte raison les femmes, que Dieu ne leur a pas permis d'enseigner ni de prendre l'autorité sur les hommes ou de diriger. Et le fait que Dieu ait dit dans sa parole qu'il ne permet pas à la femme de diriger les hommes ou d'enseigner, d'avoir un ministère d'enseignement, ce n'est pas forcément parce que la femme ne peut pas. Il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. La Bible ne dit pas que la femme ne peut pas enseigner. C'est tout simplement une affaire d'ordre. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 nous dit, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et quand on parle de l'ordre, chaque chose doit tout simplement être à sa place. Et j'ai toujours pris cet exemple simple. Lorsqu'on entre dans une maison, si on trouve les marmites à la porte, ce n'est pas normal. Et pourtant, ces marmites peuvent bien rester à la porte. Ce n'est pas parce que les marmites ne peuvent pas rester au salon ou à la porte. Mais ce n'est pas leur place. L'ordre voudrait que les marmites restent à la cuisine. C'est de la même chose avec Dieu. Dans l'église, l'ordre voudrait que chacun prenne sa place. Et chacun en prenant sa place, maintenant nous allons nous compléter les uns les autres. Il n'y aura ni conflit, ni rivalité, ni jalousie, ni compétition. On va tout simplement se compléter en tant que membre du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible va jusqu'à dire, même si le pied dit que je ne suis pas du corps parce que je ne suis pas la tête, n'empêche, il est quand même dans le corps. Donc ce n'est pas parce que on est la tête qu'on est dans le corps plus que les autres membres, non. C'est juste que chaque membre a son rôle à jouer. Et chaque membre jouant son rôle, cet ensemble va maintenant permettre au corps de bien fonctionner. C'est ça, mesdames et messieurs. Donc, il ne faut pas mal interpréter Dieu, mal comprendre Dieu. Il faut savoir saisir la pensée de Dieu. Compte tenu du temps, nous allons tout simplement nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames et messieurs. Ce n'est pas toujours évident d'aborder des sujets si complexes et même si controversés. D'ici là, portez-vous bien. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous tous. Amen et à bientôt, à la même heure et sur cette même antenne. Amen, amen, amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NGENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.